chapitre 3. Nous sommes heureux aussi de recevoir la famille Collet, c'est une joie. Voilà, je transmettrai nos salutations quand ils remonteront. Gloire à Dieu. Et c'est bon d'entendre des témoignages. J'aime beaucoup de voir l'œuvre de Dieu qui se fait dans les cœurs. Proverbe chapitre 3, un texte bien connu. Voilà verset 1er. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Amen. Voilà, la plupart des proverbes ont été écrits par le roi Salomon. On pourrait dire aussi le livre de la sagesse. Et c'est toujours remarquable de voir, et de plus en plus, je me dis, des hommes de la même nature que nous ont été saisis par Dieu, et Dieu a fait une œuvre profonde dans leur cœur, œuvre de révélation, œuvre de transformation. Et les paroles que nous lisons, les paroles que nous recevons, c'est de l'expérience et de la révélation de ces hommes avec Dieu. Et c'est extraordinaire comment le cœur naturel de l'homme, Dieu peut le saisir et en faire quelque chose qui dépasse l'entendement, tant il peut se révéler, mettre des paroles ineffables, des choses. Ces proverbes ont servi à tant de générations, et même ceux qui ne sont pas croyants, ils se sont servis de quelques proverbes. C'est beau, les paroles de Dieu, elles sont esprit et vie. Dieu est grand. Et Salomon a compris très tôt qu'il avait besoin de cette sagesse. Très tôt, au moment où il a fermé son règne, eh bien, il va faire cette prière remarquable qu'il est bon que nous puissions relire ensemble dans 2 Chroniques chapitre 1er. Verset 7, 2 Chroniques chapitre 1er verset 7, « Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisqu'il tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. » Et voilà la prière. « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce que ton cœur, ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne me demandes ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te seront accordées, et je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. » Amen. Quelle prière remarquable Salomon va faire, une prière de circonstance, une prière utile, une prière, j'allais dire, prioritaire, afin de pouvoir diriger, conduire ce peuple tellement nombreux. Il a fait en fait la bonne prière et ça nous fait penser à ce texte de Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Salomon va prier dans le sens de glorifier Dieu, de lui apporter, bien conduire le peuple, c'est aussi glorifier le nom de l'Éternel. Et Dieu lui dit, puisque tu ne me demandes pas tout le reste, eh bien je te donnerai en plus tout le reste. Et nous voulons chercher d'abord le royaume de Dieu, d'abord glorifier le nom du Seigneur, et Dieu pourvoit, bien sûr, à nos besoins, nous le croyons, il est fidèle. Et cette sagesse, non seulement il l'a reçue, Salomon, mais il va aussi l'exprimer, il va aussi la dévoiler. Et nous nous rappelons de cet épisode où il y a deux femmes qui se disputent un bébé, une dit « il est à moi », l'autre « non, il est à moi ». Et Salomon va donner cette parole de sagesse, il va dire « donnez-moi une épée », etc. Et il a compris qui était la maman et celle qui mentait. Donc, et ça a été connu, ça a été reconnu, et on a dit « mais il a une grande sagesse déjà ». Là, dès le début. Et puis, nous nous souvenons aussi de la reine de Séba qui, de son pays lointain, avait entendu parler de la sagesse de Salomon. Ça a fait du bruit, ça a fait du chemin. Et c'est bon quand on entend parler de la sagesse qui vient de Dieu. Et cette femme va être tellement intriguée, tellement interpellée, qu'elle va se déplacer, aller jusque vers Salomon. Et quand elle l'aura écouté, Salomon, elle dira « mais on ne m'en avait pas dit la moitié ». Ça dépasse ce qu'on m'avait dit. C'est extraordinaire et cette sagesse, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu, elle est communiquée. Dans notre texte, dans ma Bible, il est marqué comme titre « La sagesse récompensée ». Je dirais que c'est les conséquences d'une vie marquée par la sagesse. C'est une vie bénie. Et nous voyons là tout le reste. Cette sagesse doit être vécue, manifestée dans la vie des croyants, dans ma vie, dans votre vie. Elle doit être manifestée. Dans Proverbe 1:20, il est dit que la sagesse, elle crie dans les rues, elle élève la voix sur les places, etc. Une sagesse manifestée, une sagesse vue, sagesse entendue. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas cachée. L'œuvre de Dieu, elle est révélée. Ce que Dieu fait dans une vie, eh bien, ça doit se voir à l'extérieur, puisque Jésus dira que nous sommes la lumière du monde. Il est la lumière, mais nous sommes aussi la lumière du monde. Et cette lumière, elle ne doit pas être cachée sous un boisseau, mais elle doit être au milieu de la pièce, sur une montagne, et on doit la voir de loin et l'entendre. La sagesse qui vient de Dieu, c'est tellement beau, la sagesse qui vient de Dieu, savoir comment se conduire, savoir... etc. Donc, cette sagesse donc, vient de Dieu et nous est communiquée au travers de sa parole et par son esprit. Nous avons lu au verset premier, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Vous voyez, tout démarre avec la parole. Toujours, tout démarre avec la parole. Et nous voyons dans Genèse, au chapitre premier, Dieu dit la parole et la parole a créé. Tout démarre de la parole. Et nous devons être des croyants de la parole. Elle doit être au début de nos vies, au début de nos journées, au début de nos projets, la parole, toujours elle. Et là, ça découle également par son esprit. Je rappelle que la connaissance et la révélation de la parole de Dieu nous permettent de comprendre d'une manière spirituelle les choses. Mais la sagesse, c'est l'application de ce que nous avons reçu et compris de la part de Dieu. La mise en pratique, c'est cette sagesse-là. Et nous en avons tellement besoin, parce que nous connaissons beaucoup de choses. Paul dira que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Nous connaissons beaucoup de choses, beaucoup de versets, nous entendons beaucoup de messages. Mais ce qui est important, c'est pas seulement de les entendre, mais c'est que ça devienne pour nous esprit et vie, que ça soit comme cette révélation et que nous puissions le vivre, le mettre en pratique. On l'entend souvent, mais c'est vital. Et dans notre texte, nous allons le voir dans quelques instants. Celui qui est sage met en pratique les paroles que Dieu lui dit. Alors, est-ce que ça coûte de mettre en pratique la parole? Eh oui, si ça ne coûtait pas, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ça coûte, obéir ça coûte, mais bien sûr, Jésus a payé le prix pour notre salut, mais la marche chrétienne, elle coûte. Marcher dans la vérité, dans la sanctification, dans la foi, ça coûte. Oui, mais c'est agréable à Dieu, et Dieu bénit. D'ailleurs, dans la conclusion du sermon sur la montagne, bon, on ne va pas lire tous les textes, vous les connaissez dans Matthieu 7, de versets 24 à 27, il est dit que l'homme prudent a bâti sa maison sur le roc. Les pluies sont venues, etc., la maison a tenu, mais l'homme insensé, c'est-à-dire fou, a bâti sa maison sur le sable. Il y a les chants d'enfants qui nous parlent de cela. Je ne le chanterai pas ce soir. Voilà. Donc, l'homme prudent a bâti sa maison. Et la conclusion, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Et cet homme prudent, il y a d'autres traductions. Prudent, c'est aussi intelligent, mais c'est aussi sage, dans ce sens-là. C'est celui qui met en pratique la parole. Est-ce qu'il s'adresse à des incroyants, Jésus? Il dit celui qui entend la parole, donc il entend régulièrement, il entend la parole et ne le met pas en pratique, il est comme un insensé, comme celui qui a bâti sa maison sur le sable, les pluies sont venues, les torrents sont venus et la maison s'est écroulée. La maison nous parle de notre vie. Et notre vie, si elle est bâtie sur la parole, dans l'obéissance, si nous recevons de Dieu, si nous sommes conduits par Dieu, notre vie est solide. Elle tient dans les épreuves, dans les moments difficiles. Notre vie tiendra parce que c'est Dieu qui la tient. Mais celui qui est insensé, c'est celui qui entend la parole et ne la met pas en pratique. Vous voyez, on n'a pas la même notion de insensé. Quand on dit que quelqu'un est insensé, on n'a pas la même notion des choses. Dieu dit un insensé, c'est celui qui lit la Bible, qui l'écoute et qui n'est même pas en pratique, qui n'obéit pas, eh bien, il est considéré comme un insensé. Ça veut dire, waouh, c'est dur quoi. On sait qu'on est béni quand on met en pratique ce que Dieu nous dit, fais-le et tu seras heureux. On sait ça et on ne le fait pas. Ça veut dire il y a un problème. Mais notre cœur, il est naturel, il est comme ça et des fois, ben, des fois il fait aussi. Plus la connaissance spirituelle, plus la communion avec Dieu va augmenter, plus le Saint-Esprit nous conduira dans cette sagesse, c'est-à-dire dans l'obéissance à la parole. Et plus nous obéirons, plus nous grandirons dans l'amour, dans la foi, dans l'espérance, etc. Plus nous grandirons. Que Dieu nous aide à bien comprendre. Cet homme, Salomon, eh bien, Dieu l'a pris d'une manière, c'était une pierre brute, et Dieu l'a transformé, l'a façonné, afin qu'il puisse se diriger d'une manière agréable au Seigneur, c'est-à-dire se conduire d'après la parole de Dieu, d'après cette sagesse qui venait de l'Éternel, et nous avons encore aujourd'hui ces paroles qui nous bénissent. Que ton cœur garde mes préceptes. Il ne s'agit pas de connaître par cœur. C'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter à connaître des versets par cœur. Ce n'est pas suffisant. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons connaître des dizaines et des centaines de versets. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, largement pas. Il nous faut les mettre en application. Dans le Nouveau Testament, alors je bénis Dieu parce que la sagesse, c'est pas, comment dire, il ne nous faut pas 40 ans de vie chrétienne pour acquérir la sagesse. Je bénis Dieu parce qu'elle nous vient directement du ciel. Et ça, nous l'avons dans le Nouveau Testament, dans Jacques au chapitre 1er, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi. Ça semble tellement simple, non? Voilà, quelqu'un manque de sagesse, comme si je manque de quelque chose, je vais l'acheter. Je manque de sagesse, je demande à Dieu, il me le donne. Il me la donne. Est-ce que... Mais pour Dieu, c'est simple. Pour nous, c'est compliqué. Mais pour Dieu, c'est simple. Il le promet, il le dit, il le fait. La sagesse nous vient de Dieu lui-même. L'amour nous vient de Dieu. Et il nous est dit que elle est répandue, cet amour est répandu dans notre cœur, dans le cœur du croyant, par le Saint-Esprit. Et je crois que Dieu est fidèle à sa parole et il le fait. Il nous faut le croire et il nous faut le recevoir. La sagesse, c'est tellement important. Bien sûr, c'est quelques exhortations. On ne peut pas entrer dans... Oui, Dieu nous donne simplement, quand nous désirons obéir et glorifier Dieu, il nous communiquera la sagesse pour le vivre. Alors il y a tellement dans le texte de bénédiction lié à la parole et à l'obéissance. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix, tu acquerras de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Et tout cela découle eh bien, de l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Dans l'Ancien Testament, celui qui craignait Dieu était béni sur le plan matériel. Nous avons des exemples d'hommes de Dieu, de patriarches, qui étaient bénis de la part de l'Éternel, mais sur le plan matériel, nous pensons à Abraham, nous pensons à Job même, il avait des biens en abondance, il était béni, et pour tous les deux, il nous est dit qu'il craignait Dieu. Il y en avait bien d'autres, hein, mais il craignait Dieu. Donc ils étaient bénis sur le plan matériel, physique, etc. Dieu a pu prolonger selon sa volonté. Dans le Nouveau Testament, ça peut être le cas. Hein. Moi, on n'est pas pour la doctrine de la prospérité, mais je crois que Dieu peut bénir. Mais c'est surtout sur le plan spirituel. Celui qui craint Dieu, il est béni sur le plan spirituel. Dieu se révèle, Dieu conduit. Celui qui craint Dieu et qui se détourne du mal, mais Dieu le conduit, Dieu le bénit sur le plan spirituel. Il lui révèle sa volonté. Pourquoi il nous révèle la volonté? Parce qu'on sait qu'on va la mettre en pratique. Au verset 5 de notre texte, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Une sagesse terrestre, humaine, et nous allons le voir dans quelques instants dans l'épître de Jacques. Je trouve qu'il y a trop de discussions sur le plan spirituel, trop de raisonnements. On n'en a pas besoin de tout ça. On a besoin de recevoir la parole et d'y obéir. De prier les uns pour les autres. À la limite de donner un verset, mais voilà, on n'a pas besoin de toute une théologie pour exhorter quelqu'un. Non, non et non. Ça nous amène loin de la simplicité de Christ. Et Paul disait déjà dans son temps, « Je crains que vous vous soyez détournés de la simplicité de Christ. » Et lui, il parlait même en disant que c'est le diable qui avait séduit pour détourner de la simplicité de Christ. La vie avec Dieu, elle est simple. Je ne dis pas qu'elle est facile, mais elle est simple, elle est claire. Dieu nous parle. Quand on a un cœur ouvert, Dieu nous parle, nous conduit. Et quand des fois il y a un peu de brouillard, eh bien on cherche Dieu. On se tient devant lui et il va nous révéler. Il va nous aplanir notre sentier, comme il est dit dans ce texte. Ah oui, il y a une sagesse humaine qui nous éloigne même de Dieu. Et là, nous avons dans l'épître de Jacques aussi, au chapitre 3. Là, on va le lire ensemble. Épître de Jacques, chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Quelle différence entre la sagesse charnelle et la sagesse d'en haut. La sagesse qui vient de Dieu, elle produit, elle glorifie Dieu. Il y a des fruits qui viennent du Seigneur. Je crois qu'il faut que nous nous attendions beaucoup plus à l'intervention du Seigneur, au miracle de Dieu, au surnaturel de Dieu. Pour les enfants, j'ai entendu des prières que Dieu fasse, que des enfants peut-être durs, turbulents, eh bien soient saisis par l'Esprit de Dieu dans nos maisons. Il faut nous y attendre, il faut que nous nous attendions au miracle de Dieu. Il y a la logique, il y a ce qu'on pense, il y a ce que nous voyons, il y a l'enfant, oui mais il est dur, il est... après il va y avoir l'adolescence. Laissons ça de côté et disons: Seigneur, sauve mon fils, sauve mon enfant, et que dans une nuit il y ait une visitation du Saint-Esprit dans sa propre chambre et qu'il soit saisi et qu'il se tourne vers Dieu. Voilà, il y a trop de logique humaine. Oui, il est comme ça, donc on réagit par ce que nos yeux voient. Mais Dieu peut tout. Dieu peut tout. Et il faut nous y attendre. La sagesse nous conduit à nous appuyer sur Dieu, à le laisser nous guider nos vies dans les circonstances faciles ou difficiles. Et en nous appuyant sur lui, il aplanira nos sentiers. C'est tellement beau. Il aplanit nos sentiers, il les rend praticables. On peut y marcher, les sentiers qui sont tellement... Dieu les aplanit. Pourquoi ? Parce qu'on veut glorifier son nom, parce qu'on veut lui obéir. On veut que le fruit se manifeste, que le nom de Jésus soit connu, reconnu, que l'on puisse dire, mais dans des circonstances difficiles... Eh bien, expliquez-moi pourquoi vous avez une telle paix, vous êtes tranquille dans les circonstances, on l'a expérimenté les uns et les autres. Mais que Dieu nous aide à ce que, eh bien, la sagesse, nous conduire avec sagesse dans des moments difficiles, il n'y a que Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le miracle de Dieu qui veut nous y aider. Je ne sais pas réellement ce qui est bon pour moi, mais Dieu le sait. Souvenons-nous qu'il est celui qui connaît déjà la fin de l'histoire dès le début. Dieu connaît la fin déjà. Et quand nous lisons la parole, il y a toutes les raisons de le laisser agir. Nous, on ne connaît pas grand-chose. On est là, on voit au jour le jour, on ne sait pas la situation, comment elle va évoluer. Dieu le sait. Le plan de Dieu est parfait. Alors, nous avons toutes les raisons de le laisser agir. Il connaît toutes les situations auxquelles nous allons devoir faire face. Heureusement qu'il ne nous les dit pas en avance, hein, au fur et à mesure. Parce que si on avait tout le déroulement avec toutes les épreuves d'un coup, on ne pourrait pas le supporter. Hein. Mais Dieu, eh bien, sait déjà chaque étape, chaque épreuve, chaque circonstance, chaque décision. Il connaît tout à l'avance et il veut nous guider, il veut nous conseiller, il veut nous parler, il veut, eh bien, se révéler dans ces moments-là et Dieu veut le faire dans chaque difficulté. Nous voulons le reconnaître dans toutes nos voies. Alors il est dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnaître, ça a le sens aussi de s'appuyer sur lui. Mais reconnaître aussi, ça a le sens de reconnaître qui est Dieu dans cette situation. Quand nous pensons à une épreuve, là peut-être certains traversent des moments difficiles, et quand nous pensons à Dieu et cette épreuve, On se dit, mais Seigneur, tu es tellement grand, puissant, tu es souverain, tu règnes. Quand je pense à toi et je pense à l'épreuve, Seigneur, j'ai envie de te louer parce que je me dis, Seigneur, tu vas m'aider à traverser. Tu en es capable, tu m'as relevé tant de fois. Seigneur, je veux te reconnaître dans cette situation-là, dans cette circonstance, dans cette épreuve, dans cette difficulté. Je veux reconnaître que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Je veux le reconnaître, je veux le confesser, je veux le croire, je veux le vivre. Cette sagesse qui vient d'en haut et savoir comment nous comporter. Parce que si dans les beaux jours nous comportons bien, dans les moments difficiles, eh bien, c'est pas bon. Seigneur, donne-moi vraiment ta sagesse, que je sache comment me comporter, me conduire. Dieu peut tout. Il peut me préserver aussi de toute chute. Il nous est dit dans la parole de Dieu à celui qui peut nous préserver de toute chute. Non, c'est pas inéluctable. C'est pas parce qu'il y a des moments difficiles que je vais sombrer. Non, Dieu peut me préserver de toute chute. À lui soit la gloire. Il peut nous préserver. C'est-à-dire qu'il a la capacité de nous maintenir, de nous soutenir, de nous soulever. Dieu, c'est notre Dieu. C'est celui que nous aimons. Et nous prions pour que cette sagesse, eh bien, fasse suite à la connaissance que nous avons de la parole, la connaissance de Dieu, de l'Écriture, ainsi que nous puissions manifester cette caractéristique de Dieu. Vous savez que Dieu est le seul sage. Dans Romains 16, 27, Dieu, c'est le seul sage, parfait, la sagesse parfaite. Jésus a été la sagesse personnifiée. Et l'Épître aux Corinthiens nous dit qu'il a été fait sagesse pour nous, afin que nous devenions sagesse. Lui, il a la sagesse parfaite. Nous, même si nous sommes là sur la terre, ça ne sera jamais parfait. Mais nous voulons glorifier Jésus pendant le temps où nous marchons, pendant notre pèlerinage terrestre. Nous voulons glorifier le beau nom de Jésus, la sagesse. Je comprends que Salomon l'ait demandé. Je comprends que cette sagesse crie sur les places. Je comprends que c'est un besoin urgent. Je comprends Jacques qui dit « ne vous trompez pas, ce n'est pas la sagesse charnelle, hein. Ce n'est pas cet aspect extérieur où on peut passer pour être sage. » Non, non, ce n'est pas cette sagesse. Ça, c'est charnel, c'est humain. Il va même plus loin, il dit « c'est diabolique, elle ne vient pas de Dieu, celle-là. » Mais la sagesse d'en haut, voilà, vous pouvez la reconnaître. Il y a telle caractéristique, vous pouvez reconnaître. Ça vient de Dieu. Et surtout, ceux qui sont autour de nous peuvent aussi reconnaître, eh bien, cette sagesse qui vient de Dieu, cette sagesse parfaite. Eh bien, nous prions pour que nos enfants, qu'ils rencontrent le Seigneur, que cette sagesse leur soit communiquée. Voyez, je ne suis pas contre la psychologie extérieure, pas dans l'Église, mais extérieure, on peut, mais je veux dire, il nous explique tellement les choses qu'on finit par les croire. Et l'enfant à tel âge, il y a ceci, il y a cela. Et on s'en imprègne. Et finalement, quelque part, ça enlève un petit peu l'attente du miracle de Dieu. Il nous faut croire Dieu. Écoutez, peut-être, mais croire Dieu. Lui, ce qu'il dit, il le fait. Il a la puissance de le faire. Et là où nous ne pouvons rien, Dieu peut tout. Et nous voulons prier pour nos enfants, afin qu'ils soient sauvés et que cette sagesse leur soit aussi communiquée. Un enfant, ouais, peut être visité, saisi, et son cœur devenir sage. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, c'est possible. Oui, mais il y a la crise de l'adolescent. Oubliez ça. Je ne sais pas. On ne sait pas. Un enfant est différent de l'autre. On ne sait pas. Mais Dieu, lui, les aime et il veut les sauver. Alors même tout petit, il veut les sauver. Cette sagesse. Proverbe 10, 1. Nous dit, un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé, le chagrin de sa mère. Un fils sage. Nous prions pour le miracle de la grâce, que le miracle de la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans nos maisons, dans l'Église, et qu'il puisse très tôt être mis au large. Vous savez que c'est un enjeu terrible, les enfants. Ils les veulent tous. On veut nous les prendre et les enseigner, les éduquer. Le diable les veut. Très tôt, mais Dieu a payé le prix pour eux. Lui, il a payé le prix sur la croix. Et je crois que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Dans 2 Timothée 3,15, je vais bientôt terminer, 2 Timothée 3,15, il est dit, Paul dira à Timothée, il l'affectionnait, Timothée c'était son enfant dans la foi, et il dit, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Dès ton enfance, tu connais. Il faut que nos enfants connaissent la parole. Et il faut que nous soyons aussi une lettre lue pour eux. Un message clair pour nos enfants. C'est pas facile, hein ? Là, c'est sûr, c'est pas facile. Mais il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Il faut qu'ils aient un message clair, que ce qu'ils lisent ce soit vécu par ceux qui disent qu'ils sont sauvés. Alors, on leur dit qu'on n'est pas parfait, c'est sûr. Mais il faut qu'ils voient la grâce de Dieu, il faut qu'ils voient quelque chose. Et qu'ils disent, ben, moi aussi je veux me tourner vers le Seigneur. Je ne veux pas aller loin de Dieu pour l'éternité, c'est terrible. Et le témoignage de notre frère, c'est une réalité. Parce que les enfants ont peur, hein. Ils vous le diront peut-être pas, mais ils ont peur de partir loin de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est quelque chose, et je dirais que c'est une, je dirais pas une sainte peur, une bonne peur, que ça puisse, bien sûr c'est l'amour qui doit nous attirer, mais si c'est par la peur qu'on arrive à l'amour de Dieu, soit, on prend. Mais que les enfants se tournent vers le Seigneur, qu'ils soient à l'abri, qu'ils soient mis au large, dégagés de toutes les influences mauvaises qui les saisissent. Parents, vous savez toutes les influences qu'il y a. Hein. Il y en a de partout, des influences pour détourner nos enfants. Mais je crois que la vérité est plus forte que le mensonge de l'ennemi. Je crois que l'amour de Dieu est plus fort que toute la méchanceté, toute la haine. L'amour de Dieu est plus fort. Je crois que la lumière est plus forte que les ténèbres. Ah, je crois que c'est Christ qui va emporter. La vie est plus forte que la mort. Dieu peut tout, croyons-le, reconnaissons-le dans toutes nos voies, dans nos familles, dans l'Église, dans nos circonstances, reconnaissons-le et il aplanira notre sentier. Ce que nous ne pouvons pas faire, il le fait pour nous, il pourra le faire pour nous. Croyons-le, on ne peut pas sauver nos enfants, mais Dieu le peut. On ne peut pas donner la sagesse comme ça à quelqu'un, mais Dieu le peut. Alors je termine avec une phrase, Dieu change le mal en bien et les circonstances négatives en moyen de bénédiction. Ça, c'est notre Dieu. Celui qui a expérimenté la sagesse, l'homme le plus sage que la terre ait porté, c'est Salomon, eh bien il nous a écrit dans ses proverbes, il nous écrit le résultat de cette vie avec Dieu, de cette vie marquée par la sagesse et de cette vie que Dieu veut nous faire vivre. La sagesse communiquée à chacun de ses enfants. Moi, je prie pour que Dieu me communique cette sagesse. On en a tellement besoin. On connaît des choses, mais maintenant, les vivre. Et dans nos choix, dans nos décisions, on entend tellement... C'est pas facile, des fois, savoir comment répondre, comment... Eh bien, que Dieu nous donne cette sagesse, qu'on la demande simplement, et Dieu nous la communique. Seigneur, nous te bénissons, parce que tu as prévu, tu nous as sauvés, mais tu as prévu aussi le moyen que nous puissions vivre en nouveauté de vie, que nous puissions vivre une vie d'enfant de Dieu, une vie conduite par ton esprit. Tu as prévu, Seigneur, tu as préparé. Nous, nous ne savons pas, mais toi, Seigneur, tu sais tout et tu peux tout. Seigneur, je te prie pour moi-même, pour ma vie. Seigneur, que ta sagesse ne me fasse pas défaut, mais qu'elle puisse être là dans ma vie. Que ce que je connais de ta parole, de toi, eh bien, je puisse l'exprimer, le vivre, le mettre en pratique. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs. Seigneur, de même, que cette sagesse nous soit communiquée, cette sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, je te prie pour chacun des enfants aussi, ici présents, mais ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, je te prie de les visiter. Et pourquoi pas dans cette nuit, Seigneur, je ne sais pas, mais tu peux, Seigneur, visiter un enfant et tout à coup lui révéler qui tu es, Seigneur, et ce que tu as fait pour lui. Je te prie dans le nom de Jésus, bénis nos familles, bénis l'Église, au nom de Jésus. Amen.